Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble pour commenter l'actualité. 0826 300 300, vous connaissez le numéro, le Facebook Live également pour réagir aujourd'hui. Pour débattre, François Monboise, président de la FEVA, de la Fédération Européenne de la Vente à Distance, bonjour.
Bonjour.
Éric Vérag, entrepreneur, fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges.
Bonjour.
Bruno Pomard, maire de Belflou dans l'Aude.
Bonjour Valérie.
Vous avez également été participé à la fondation du RAID, et Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République.
Bonjour Valérie.
Bonjour à vous. Réforme de l'assurance chômage, les cadres dans la ligne de mire du gouvernement, les entreprises et les cadres seront-ils les grands perdants de cette réforme? La magistrate agressée, vous avez peut-être suivi cette affaire à Versailles, la société de plus en plus violente. Ce matin même, je racontais, j'ai vu une femme devant moi sortir de sa voiture. Elle est engueulée, la femme qui était, il n'y avait que des femmes ce matin, devant moi, et lui mettre son poing dans la figure.
Entre femmes. Mais est-ce qu'il y avait de la boue sur
non,
le
y
sol
avait,
pour
arrêtez
le match
d'être, non, mais ça m'a frappé de voir ça. Je trouve ça, pas parce que ce sont des femmes qui se battent, mais je trouve qu'il y a une violence incroyable. Et puis le maintien de l'ordre à la française, c'est tout un programme auquel réfléchit Christophe Castaner, qui a réuni un certain nombre d'experts. Vous n'en faisiez pas partie, Bruno Pomard?
Non, je m'interroge encore sur des experts, savoir qui sont ces experts, si c'est des grands scientifiques, des gens qui n'ont jamais vu une manif de leur vie et qui ne sont jamais allés sur le terrain, j'ai peur.
Gardez vos arguments pour tout à l'heure. Vos coups de cœur, vos coups de gueule.
Ça va être la bagarre.
Ça va être la bagarre. Oui. Nicolas, vous vouliez revenir sur un bug dont on a parlé la semaine dernière, mais qui vous a un peu énervé en début de semaine.
Oui, c'était mon coup de gueule du jour, parce que je trouve que la Startup Nation a du mal à organiser le référendum d'initiative populaire sur Aéroport de Paris. Et que le fait que le ministère de l'Intérieur soit incapable de maintenir le serveur disponible sur son site, puisque c'est la loi qui le prévoit ainsi, pour que tous les citoyens qui le veulent puissent voter, moi, me pose un problème. Le deuxième problème qui a été révélé par Marianne, c'est l'anonymat, et la levée de l'anonymat de tous les signataires, c'est-à-dire que 5 jours après avoir signé, le ministère de l'Intérieur va rendre public le nom de tous les signataires. Alors, la question, moi, c'est pas tant que ce soit rendu public, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce fichier une fois que le référendum est passé. Donc, je trouve que, voilà, il y a sur l'organisation de ce référendum un vrai sujet, qu'on soit pour ou contre, d'ailleurs, l'objet de ce référendum. Moi, j'appelle tout le monde à y participer et à exiger que l'État soit à la hauteur de ce que prévoit la Constitution, tout simplement.
Oui,
pas plus, pas moins.
Enfin, l'État peut aussi décider de ne pas tenir compte de ce référendum.
Oui, bien sûr, mais en tout cas, l'État est obligé de l'organiser. C'est la Constitution, et donc il doit l'organiser avec des moyens adéquats. On n'imaginerait pas demain une élection où il manque des isoloirs.
Ouais.
Non, mais le bug, il revient périodiquement. Hein. Vous essayez de vous connecter, vous verrez.
Facile, hein.
Mais oui, c'est pas facile, mais enfin, c'est leur problème, pardon.
Ouais. Quand on veut, on peut, c'est ce que vous dites.
Oui, quand on veut, on peut.
Ça coûte très cher.
Voilà. Ouais. Et même si ça coûte très cher, la démocratie, ça coûte cher.
Ouais. On a mis sous continuité le site pour ADP bug, effectivement, donc il continue de bugger. Ouais. Éric.
Oui, alors moi, je voulais faire comme toujours un coup de cœur et me féliciter des annonces, notamment celle de l'arrivée de Flixbus, puisque une compagnie de chemin de fer allemande candidate pour opérer sur 5 liaisons ferroviaires en France, dont un Paris-Lyon, qui s'ajoute à Tello, qui est une compagnie italienne qui veut faire un Paris-Lyon Milan grande vitesse avec un arrêt à Lyon. Flixbus annonce des tarifs très abordables. Et je me dis, enfin, que d'années perdu à devoir subir les injonctions de la SNCF et la mauvaise éducation d'une grande partie de son personnel.
Problème, c'est qu'ils vont se mettre en grève et ça va créer encore
Et moi qui fais, vous savez que j'ai une entreprise à Lyon, je fais régulièrement Paris-Lyon, au moins une fois par semaine, et régulièrement je peste contre la mauvaise qualité de service et les dysfonctionnements de la SNCF, et je me félicite qu'enfin il y ait une mise en concurrence avec des opérateurs sérieux qui vont montrer aux agents de la SNCF que la mise en concurrence, c'est bien.
Nicolas va tomber de sa chaise.
Oui, moi je suis en PLS.
Il est tombé de sa chaise.
Entendre ces vieux arguments de l'égoïsme du consommateur par rapport à l'intérêt général.
Non, c'est juste le chef d'entreprise qui veut payer ses URSSAF.
Oui, non,
c'est
ça,
l'égoïsme. L'égoïsme du consommateur.
Ne voyage pas dans les conditions adéquates sur Paris-Lyon. Effectivement, ça justifie l'arrivée
de la concurrence. Non, mais il n'y a pas que Paris-Lyon, Nicolas, il y a quand même des gros dysfonctionnements à la SNCF.
Il y a des dysfonctionnements, bien sûr, mais ça tient aussi aux réseaux secondaires, aux investissements qui n'ont pas été faits sur les réseaux ferrés.
Vous ne pouvez pas dire dire les caprices des consommateurs.
Les trains de vos amis belges ou italiens ne subiront pas moins d'avaries et pas moins d'incidents que les trains français, puisque le problème, ce n'est pas les trains, le problème, c'est le réseau ferré.
Nicolas,
donc,
il y a un problème.
Vous ne changerez pas les rails, donc arrêtez de répondre
de comportement. Il y a un problème de relation client
à la
SNCF.
Vous verrez sur vos compagnies low cost.
Moi qui prends des trains allemands, des trains suisses, des trains italiens.
Il n'a pas dit belge.
Regardez dans l'aérien, vous trouvez que les standards des EasyJet sont plus sympas que les standards Air France.
Moi, je trouve que
ceux de Vueling, oui. Ceux de Vueling en low cost, oui.
Ah, c'est vrai que c'est un problème. Sur le réseau secondaire, c'est un vrai problème.
Là où Nicolas a raison, c'est que la concurrence ne viendra pas sur les trains de banlieue. C'est-à-dire que la SNCF va avoir seule à supporter les trains de banlieue et les petites lignes.
Mais ça, il les prend moins, les trains de banlieue, Eric
Berry. Pas sûr.
Oh, vraiment le fantasme.
Patrick nous dit, pour les impôts, le site, il n'y a pas de bug. Bah si, il y a eu un bug, justement, et Gérald Darmanin a même prolongé le délai.
Sérieusement, donc, techniquement, c'est très dur quand vous démarrez, je connais un sujet, un jour J, à une heure H, et qu'il y a des millions de gens qui se connectent, ça coûte une fortune d'avoir les serveurs pour X millions de gens. Et visiblement, il l'avait sous-dimensionné.
Mais sous-dimensionné, mais pourquoi ça continue?
Mais parce qu'à un moment, on dit allez-y, tout va bien. Il doit y avoir plusieurs centaines de milliers, voire un million de gens qui se connectent en même temps. Et un million de gens qui se connectent, il y a quelques grosses sociétés qui savent faire. Amazon et Google, mais la plupart des PME françaises, elles explosent.
Et de l'administration,
bien sûr.
François, votre coup de. C'est un coup de gueule?
Oui, c'est un coup de projecteur sur un titre rigolo de l'AFP qui a dit Gay Pride à Tel Aviv, la plus grande Gay Pride du Moyen-Orient. Ouais. Alors, quand on dit la plus grande Gay Pride d'Europe, on comprend, on compare Berlin, Zurich, Londres, Milan, Madrid, et Moyen-Orient. Alors, depuis, on m'a dit, c'est Jérôme Colombin de France Info qui m'a dit, il y en a une à Beyrouth. J'ai regardé, il y en a une à Beyrouth en 2017. En 2018, le gars qui voulait la reconduire a été mis en prison. Et en 2019, il y a quelques blocs, mais ça ne reparaît pas. Donc, c'est la seule Gay Pride du Moyen-Orient. Ça ne retire rien au mérite de Tel Aviv.
Oui.
Il faut quand même relativiser.
Oui, du Moyen-Orient, effectivement.
Parce que c'est quand même un débat qui a été lancé par Al Jazeera, AJ+, la télé qatari, qui dit « Oui, mais Israël fait du pinkwashing, fait semblant de protéger les LGBT, et en fait, est très sévère sur les LGBT. » Alors, venant d'une télé qatari, quand même...
Pas les LBD, les LGBT.
LGBT. Bruno, vous, c'est plus. Coup de cœur,
coup de gueule, rapide. Coup de cœur, parce que le gouvernement, on tape beaucoup sur le gouvernement, je vois les uns et les autres. L'action que mène Gabriel Attal avec le service national universel qui a été lancé cette semaine. Donc il y a 2000 jeunes qui vont être accueillis. Ici, ouais. Les enfants de 16 ans, je pense que c'est une bonne chose, ça n'a pas remplacé le service militaire et qu'on a eu le tort de faire disparaître, mais je pense que c'est une bonne idée d'avoir lancé ce dispositif, parce que bon, moi qui travaille beaucoup dans l'associatif, je me rends compte que notre jeunesse a besoin de ce travail de citoyenneté, etc. Et je pense que c'est une bonne chose, donc une belle dédicace à ce dispositif, parce que l'année prochaine il va cartonner, puisque près de 40 000 jeunes vont y participer, 16 ans, et un peu au-dessus, avec 15 jours, pour que vous compreniez, c'est 15 jours dans un centre qui a été déterminé par le gouvernement, et 15 jours en pratique dans les associations. Je pense que c'est une bonne chose pour notre jeunesse, et je pense que c'est quelque chose qui sera fort dans l'avenir. Et juste un coup de gueule très rapide concernant la Légion d'honneur qui a été remise à Elton John, qui va être remise à Elton John. Je trouve, encore une fois, Sarkozy avec Tom Cruise, Macron avec Elton John. Je ne vois pas ce que viennent faire ces gens-là. Moi, je l'ai, la Légion d'honneur, comme d'autres, et je trouve ça inadmissible.
Ouais, enfin, je trouve que c'est pas un coup de gueule. Enfin, je trouve que Elton John, c'est un mauvais procès.
Ah, mais c'est une grande star.
C'est une grande star. C'est-à-dire qu'à la limite, si vous prenez la liste de la Légion d'honneur et que vous voyez des journalistes, en l'occurrence,
je suis d'accord.
C'est pas Ramzi Kiroun.
Non, mais je suis d'accord avec vous, Valérie.
Non, mais voilà,
nos champions, d'ailleurs, les handballeuses n'ont pas été encore décorées, mais les champions sportifs qui font rayonner la France, évidemment. Mais en même temps, vous avez tout un tas de personnages qui ont des Légions d'honneur.
C'est plus un coup de gueule général sur les Légions d'honneur qui sont remises un peu à n'importe qui, sauf qu'Elton John, enfin voilà,
c'est une star, attention, c'est une immense star,
qui mérite, mais bon, à quoi sert la Légion d'honneur, pourquoi faire.
C'est un vrai sujet,
Il y a de l'argent.
Napoléon Bonaparte doit se retourner dans son.
Notre confrère Alexis Poulain qui est
surtout
ici,
un anglais.
En parlant. Pardon.
Si Napoléon savait qu'on la donne à un anglais.
Un anglais, oui.
Non, mais avec le Brexit, il va peut-être s'installer en France.
En parlant du SNU, il dit qu'on est en train de former des milices.
Il dit n'importe quoi.
Qui dit ça?
Alexis Poulain.
Je vais l'inviter. Je vais venir à venir sur mon site. Il y a des jeunes qui vont venir. Il dit n'importe quoi.
Moi, j'avais un coup de gueule contre l'avocat de Jonathan Daval, son avocat Randall Schwerdorfer, qui a dit qu'il avait été courageux. Donc, j'avoue que cette phrase, des aveux extrêmement courageux. Le type, il a quand même menti pendant des mois. Il a accusé son beau-frère. Il a accusé sa belle-famille. Il a accusé la terre entière. et de dire que c'est extrêmement courageux. Alors je trouve que les mots sont particulièrement mal choisis.
Et puis il a dit que ça permettra de partir vers un, en gros vers une défense solide.
Ouais, bah voilà, c'est sûr. Et puis peut-être un petit mot sur Marlène Schiappa qui en ce moment est à l'UNESCO.
Mais Valérie,
et qui...
vous êtes très anti-schiappesque.
Pas du tout, pas du tout. Non, non, pas du tout. Je reconnais quand il y a des choses bien, mais elle dit je me battrai pour qu'il y ait plus moins d'agressions, moins de machin. Moi, je veux bien, mais on attend les actes,
mais
on attend des choses concrètes.
Exactement.
C'est un peu ça.
Oui, oui. Ah ben oui. Moi, d'ailleurs, j'ai demandé à la rencontrer parce que je mène pas mal d'actions sur la problématique des femmes battues, entre autres, et des familles monoparentales. Mais effectivement, je voudrais la rencontrer pour savoir concrètement ce qu'on fait, parce que c'est bien de parler derrière un micro et d'annoncer partout à l'ONU, à l'Assemblée nationale, partout qu'elle va se battre, elle va se battre, mais à un moment donné, il faut passer à l'action.
Ouais,
et ça, voilà. c'est autre chose.
Non, non, je pensais à ça parce que je viens de le voir tomber, passer sur Twitter, donc en disant qu'il fallait effectivement... et tant qu'il y aura des centaines de milliers d'agressions sexuelles par an, 60 000 femmes excisées, des femmes réduites à l'esclavage sexuel, ouais. Tant qu'il y aura 9 à 27 %, ouais. Je vais continuer à réagir et je vous propose qu'on réagisse ensemble. Ouais, mais je suis pas sûr que ça fasse avancer le chemin.
Ouais, non, pas vraiment.
Évidemment, c'est bien d'avoir quelqu'un, cela dit, d'assez visible pour défendre les femmes.
Vrai.
Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de la réforme de l'assurance chômage. Qui va payer? Les cadres, en tout cas, les entreprises. Dites-nous ce que vous en pensez. 0826-300-300.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour dans le studio de Sud Radio avec vous. On est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Bah, l'actualité, c'est la réforme donc, de l'assurance chômage. Le gouvernement présente aujourd'hui une vaste réforme qui va toucher à la fois l'indemnisation, l'accompagnement des chômeurs, oui, et puis le portefeuille des entreprises. Donc, il y a une idée de bonus-malus pour les entreprises qui abusent des contrats courts et un durcissement des règles pour être indemnisés. Et puis, les cadres qui sont jugés trop bien indemnisés pour une catégorie de salariés très peu touchés par le chômage. Le gouvernement estime qu'il coûte trop cher et qu'il pourrait, et qu'en fait ce serait mieux qu'il y ait une dégressivité. La question que moi je voulais vous poser, c'était sur ces cadres qui aujourd'hui sont ceux qui payent le plus et qui utilisent le moins,
parce qu'en réalité, ils sont pas forcément
moins
au chômage, mais
chômage,
ils trouvent plus facilement du travail que ceux qui sont sans diplôme. Mmh. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un système qui est, à mon avis, Macron a pris toutes les mesures sur la convention d'assurance chômage qui sont anti-gaulois réfractaires. Alors, vraiment, c'est toutes les conneries qu'il a faites qui ont mis les gilets jaunes dans la rue. Il les continue allègrement et même il les approfondit. Et donc c'est vrai que les cadres aujourd'hui qui vont être touchés par la mesure, c'est des gens qui vont payer des cotisations sur une grande partie de leur salaire. Alors, je crois que ça va jusqu'à 6 600 € par mois, les cotisations. Et qui vont être indemnisés.
Les indemnisations, pas les cotisations.
Non, aujourd'hui, on paye des cotisations jusqu'à 6 600 € de mémoire de salaire. Et en revanche, on ne sera indemnisé que comme si on avait un salaire de 3 300 €. Ça veut dire qu'il y a une part des cotisations qui vont être payées et qui vont être un impôt déguisé. Et donc, en réalité, ce qu'on ne dit pas clairement, mais qu'il faut dire pour expliquer cette convention assurance chômage, c'est qu'on est en train de transformer la cotisation des cadres en un impôt, de fait, nouveau, qui ne dit pas son nom, et qui est une arnaque complète, puisque dans la pratique, une fois de plus, les cadres qui passent déjà leur vie en réunion pour gérer le bordel des surcouches hiérarchiques dans toutes les entreprises, vont devoir en plus se dire, dès que je suis lourdé, je perds une quantité colossale de mon salaire.
Pour moi, c'est pire que ça, puisqu'en fait, il faut mettre ça en relation avec les annonces, par exemple, d'Édouard Philippe sur la baisse des impôts. En fait, ce qui se passe, c'est que les cotisations sociales, elles ont été baissées par Emmanuel Macron.
Ouais.
Les cotisations sociales et une partie des cotisations patronales.
Voilà.
Donc, le problème du gouvernement, qui ne nous dit pas les choses, c'est qu'effectivement, quand vous devez financer l'assurance chômage avec moins de cotisations sociales, ça veut dire que c'est le budget de l'État qui va être mis à contribution. Donc, on continue à faire cotiser quand même des cadres, mais on va diminuer le régime des indemnisations.
Les cotisations chômage n'ont pas baissé. C'est
les cotisations sociales.
Cette compagnie d'assurance publique qu'on appelle la sécurité sociale.
La deuxième chose, c'est que cette réforme, elle est idéologique et elle est caricaturale. C'est-à-dire qu'elle est faite effectivement pour la communication. On va répondre aux grandes mythologies sur la fraude. Donc on va balancer l'idée qu'il y ait des gens qui touchent 6 500 € d'assurance chômage par an. En fait, aujourd'hui, il y a 11% des chômeurs qui touchent plus de 1 800 € par mois. Oui. C'est ça l'assurance chômage en France aujourd'hui. C'est pas des fantasmes sur des gens qui vont au soleil avec leurs indemnités. Il faut arrêter.
Ils peuvent le faire, mais en faisant du travail au noir à côté.
Bon, mais ça c'est autre chose. Mais ça c'est autre chose. Mais parlons du travail au noir, parce qu'effectivement, à un moment, moi je préférerais qu'on agisse sur le travail au noir vis-à-vis des employeurs plutôt qu'on ne les taxe. Mais en fait, on comprend que la taxe sur les contrats courts va exempter finalement les principaux secteurs qui ont recours aux contrats courts. Hein, notamment le bâtiment, qui, je comprends, a obtenu une exemption. Donc, vous ne taxez pas les contrats courts dans le bâtiment. Autant dire, vous ne taxez pas les contrats courts du tout en France. Il reste
la restauration.
On comprend bien le sujet. Donc, c'est une réforme qui malheureusement, est en trompe-l'œil et qui est de la com', mais qui va abattre un... Et je rappelle juste une chose, c'est que ce régime, il est à l'équilibre, il est même excédentaire. Il est endetté, il a contracté une dette importante, mais aujourd'hui, et depuis plusieurs années, il est à l'équilibre. Donc c'est comme ADP, quoi. Voilà.
François Monboise.
Moi j'entends ça, je me demande s'il n'y a pas un plan derrière, parce que c'est quand même pas idiot au gouvernement, qui est de commencer par les cadres, et puis dans un an, de faire de la dégressivité pour tout le monde. Et commencer par les cadres, c'est malin, parce qu'il n'y a que les cadres qui râlent, et on va leur dire, vous êtes les plus riches. Nombreux. Et puis 6 600 euros, c'est énorme.
C'est énorme.
On n'est pas de genre. De penser que quelqu'un au chômage touche 6 600 euros, on aura du mal à mettre des gens dans la rue. Donc je pense que c'est pour ça. Je suis d'accord que c'est une mesure symbolique qui ne va pas gagner grand-chose. Mais c'est ça contre la restauration de l'ISF. Hein, c'est ce qu'on entendait il y a quelques mois. Donc c'est une mesure symbolique de taxer les riches qui, effectivement, ne rapportera pas parce que les cadres sont peu au chômage. Et il y a très peu de cas d'abus, en général, là-dessus. Mais je pense que ça permettrait au gouvernement de dire, vous voyez, ça marche pas mal.
Mais là dans ce qui est ciblé, sont les entreprises et les cadres.
Oui, parce qu'on ne peut pas cibler.
Donc ceux qui font tourner le boulot.
Il faut ajouter quand même, il y a une petite disposition de plus, qui n'est pas neutre, c'est que jusqu'ici, il fallait 4 mois de cotisation sur les 14 derniers mois pour pouvoir être indemnisé. Alors, ce qui n'est pas neutre, parce que ça signifiait que pour pouvoir être indemnisé, si on avait accumulé 2 saisons touristiques, c'est-à-dire 2 contrats juillet-août sur 2 années consécutives, on avait droit à l'indemnisation. Mmh. Et maintenant, il va falloir passer à 6 mois. Ouais. Donc, il faut comprendre qu'en effet, les CDD vont douiller, parce que ceux qui, notamment dans les zones, dans les Alpes, etc., vivent de saisons, vont se retrouver face à des conditions beaucoup plus contraignantes pour être indemnisés. Et je pense que socialement, là aussi, on va en payer le prix parce qu'il y a des gens qui vivotaient comme ça, et là, on va taper dans le mille.
On a Bernard en ligne avec nous au 0826-300-300. Bonjour Bernard, vous êtes à l'antenne sur Sud Radio, on vous écoute.
Oui, bonjour. Merci de m'accueillir de votre radio. Oui, je voulais juste dire 2 mots donc sur cette réforme possible. Personnellement, je serais favorable dans la mesure où elle touche tout le monde. Cette dégressivité, si on veut dire que on aide et on voudrait que les cadres ou les non-cadres au chômage retrouvent du travail. Or, ce n'est pas le cas. L'un de vos intervenants a dit que c'était dogmatique, c'était idéologique, et c'est ça le drame que nous avons en France. C'est qu'aujourd'hui, plutôt que de créer de la richesse avec les entreprises, aujourd'hui, eh bien, on enlève la richesse à l'un pour la donner à l'autre. Hier, c'était les retraités, aujourd'hui, ce sont les cadres, etc. Et tout ça décourage tout le monde en France. Il est là le véritable drame. Il est là. C'est cet égalitarisme qui date vraiment d'un socialisme archaïque aujourd'hui qui ne marche pas en France. Aujourd'hui, le problème, c'est de s'intéresser aux véritables créateurs d'emplois et de richesses. Ce sont les entreprises. Voilà ce que je voulais dire.
Oui, merci beaucoup. Merci Bernard. On va se retrouver dans un instant 0826-300-300 pour parler de cette réforme de l'assurance chômage et puis également de la violence qui monte de plus en plus dans la société. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Donc on a parlé de l'assurance chômage, de cette réforme qui est en cours. Effectivement, ce que François Monboise disait, c'est que ce test de la dégressivité, on peut imaginer que le gouvernement a l'intention de l'appliquer par la suite à tous les chômeurs. On va parler, je voulais qu'on parle de la société de plus en plus violente. L'une des présidentes de la cour d'assises des Yvelines a été agressée lundi matin à son domicile. Elle a été visée par un tir de flashball par 2 hommes qui se faisait passer pour des livreurs. Elle est grièvement blessée.
Est-ce qu'elle a perdu son œil?
Je ne sais pas.
Non.
Ça apporte quelque chose?
Oui, parce qu'en fait, évidemment, il y a eu tout de suite derrière des tweets sur les réseaux sociaux, sur Twitter, disant, mais alors, quand c'est un gilet jaune qui se prend à LBD dans l'œil, c'est une enquête de l'IGPN, quand c'est une juge, c'est immédiatement qualifié de tentative d'homicide.
Bah, c'est juste un procureur quand même.
Ouais. Non, mais c'est une présidente. C'est un être humain. Voilà, c'est un être humain. Comme un gilet jaune.
Donc, oui, mais représente l'État.
Oui, mais la qualification pénale n'est pas liée au statut social dans ce pays.
Non. Vous mais il y a des circonstances aggravantes en fonction des fonctions exercées.
Mais c'est le contraire. C'est le monopole de la violence. C'est les forces de l'ordre. C'est ça en France. Dans une démocratie.
Le symbole est terrible.
D'accord, mais la violence. C'est pas parce qu'on est policier qu'on a le droit d'éborgner quelqu'un qui passe dans la rue.
Mais c'est pas un droit que se sont donné les policiers.
C'est pas le sujet.
Pardon. C'est pas le sujet, Nicolas.
Ouais.
Nicolas
pour moi, c'est pas le sujet. Non. Le sujet, c'est que c'est une agression extrêmement grave et rare dans la manière dont elle est survenue,
dans son intentionnalité,
mais qui va aussi dans un contexte où la violence a aujourd'hui pris parti dans le processus judiciaire. C'est-à-dire que des avocats menacés, agressés, il y en a pratiquement toutes les semaines. Mmh. Hein, le dernier exemple en date, c'est quand même un cabinet à Grenoble qui a été mitraillé à la Kalachnikov. Voilà. Un avocat à Nice qui est tabassé dans la salle d'audience par son client. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette violence-là, cette pression-là, la menace qu'on fait porter sur le processus judiciaire des policiers qui sont menacés dans leur vie privée, à leur domicile, et
la société.
On le connaît. Donc, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire que ce dernier rempart, qui est celui de la violence légitime, de la justice, ce qui fait finalement le dernier ciment de la République, si on ne le protège pas, et si on ne prend pas conscience du réel danger qu'il y a, on va vers une société en délitement total. Et donc, la protection qu'on doit aux magistrats, aux avocats, aux policiers, à tous ceux qui sont auxiliaires de la vie de justice, est une question de société centrale. Et moi, je préférerais, pardon monsieur, qu'on mette 1,5 milliard d'euros pour agir sur ces sujets-là et pour assurer une meilleure protection des forces de l'ordre et des magistrats, plutôt que dans les pantalonnades du service national universel.
Ouais. Ah non, mais attendez, cher ami. Non, ne confondons pas tout, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes, je dirais presque.
On parle de choix politique.
Le SNU, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs au résultat, ce qui se passe là avec cette magistrate, il y a sûrement une affaire derrière, c'est réglé, à mon avis, ça, ils vont remonter.
C'est un règlement de compte. Alors effectivement, Cédric nous dit, rien à voir entre la magistrate et les violences de tous les aussi, il y a quelque chose qui a été franchi, il y a une barre qui a été franchie.
Mais je crois que la justice doit continuer évidemment à mener ses missions, comme on dit, à être intransigeante et surtout à être moins laxiste, parce que à mon sens, je suis pas un pro du tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais à un moment donné, je pense qu'il faut que la justice sur des cas bien précis, et c'est souvent malheureusement pas le cas, parce qu'il y a la surabondance dans les prisons, etc. Il faut sanctionner. La sanction à valeur d'exemple. Moi, c'est un truc qu'on m'a appris. Et c'est essentiel.
Je vais raconter une histoire. Ça n'a rien à voir avec la violence, mais ça a à voir avec la justice et la police. Je vais faire de l'essence et je vois payer avant de faire votre plein dans une station où j'ai l'habitude d'aller. Donc j'y vais et je dis à la personne qui était à la caisse, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez pris cette décision? Et elle me dit, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens qui se servent et qui partent. Et je lui dis, mais alors, vous appelez pas la police? Et elle éclate de rire. Et elle me dit, oui, il y a 3 ans, il va y avoir une enquête, machin, le temps de retrouver la plainte, etc.
Parce qu'il y a de plus en plus de délits, ce genre de délit-là, effectivement, est multiple toute la journée, on voit ça.
Parce que j'ai vu, il y a autre débat sur on mélange un petit peu tout, mais sur cet aveugle qui traverse au passage piéton avec le type qui force. Son accompagnateur se fait taper dessus. Il y a une avocate qui dit, mais en gros, est-ce que c'est le rôle des réseaux sociaux que d'afficher la plaque d'immatriculation du type? Laisser la police faire son travail. Sauf que la police, elle ne fait pas son boulot.
La police fait son boulot, la police a besoin d'être aidée par la population aussi. On ne peut pas tout faire. Ce n'est pas les champions du monde, les policiers. Si la sécurité, on ne pourra la mettre vraiment en place dans ce pays que si on est aussi aidé. Enfin, la police, je pense, les forces de l'ordre sont aidées par la population. C'est pas faire de la délation, etc. Quand il y a un mec qui crase quelqu'un, moi je vous dis tout de suite, je prends l'immatriculation, j'envoie à mes collègues sans aucun souci. Et après, on pourra balancer sur les réseaux sociaux que je suis.
Il y a des passe-droits dans ce pays. Parce que moi je l'ai fait, mais je ne suis pas ancien flic. Et les policiers m'ont dit, mais monsieur, vous n'êtes pas resté sur les lieux de l'accident pour nous indiquer ce qui s'était passé. Et je me suis fait engueuler par les flics.
Oui, mais non, mais même
temps, le problème, c'est que les policiers ne font pas leur boulot. Voilà, monsieur, et que monsieur, personne n'ose leur dire qu'à un moment donné, ils doivent bosser.
Les policiers, on les mange à toutes les sauces, il faut savoir. Là, on est en train de leur enlever tout un tas de missions qui leur sont indues.
Dans le 7e arrondissement, dans les beaux quartiers de Paris, etc. Ils font leur boulot.
Non, non, partout ils font leur boulot.
Dans les quartiers de délinquance, ils ne font pas leur
boulot. C'est peut-être pas le cas en Belgique, je l'admets, mais en France, je peux vous assurer que les policiers font leur boulot le mieux possible. Le problème, c'est que le gouvernement... Et comme tous, les mangent à toutes les sauces. C'est pour ça que la police est dépassée maintenant.
Mais est-ce qu'il y a des faits de violence de plus en plus nombreux ? Est-ce que c'est ce que vous constatez ?
Alors c'est drôle que vous disiez ça, parce qu'il y a un grand article dans Le Monde que j'ai lu ce matin, qui explique qu'il n'y a pas de violence gratuite, que c'est un concept inventé par la droite et l'extrême droite, et Laurent Boucheli qui est interviewé comme à chaque fois. Ouais. On retrouve le sentiment d'insécurité de 2002. Quoi. Ouais. Il n'y a pas de violence.
Il n'y a pas de violence.
Moi, je trouve qu'il y a une violence plus forte, physique, c'est vrai.
Il y a une tension dans le pays.
Et puis, il y a une tension même sur les réseaux sociaux, qui sont de plus en plus agressifs et violents. D'où les lois qui peuvent être pires que ce qu'il y a aujourd'hui, la loi Avia, qui veut s'attaquer au problème de la haine sur les réseaux sociaux, mais c'est un phénomène réel. Il y a une société qui est de plus en plus violente. Et sur la magistrate, moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Nicolas, c'est une barrière importante, mais qui est franchie quand on met à égalité les violences des manifestants et les violences des policiers. Ouais. C'est pas pareil, il y a une violence légitime et l'autre qui l'est pas.
C'est ce que nos auditeurs en tout cas trouvent, qu'il n'y a pas de différence entre un gilet jaune qui était borné et une magistrate qui est attaquée, que ce sont des êtres humains.
Si on peut ajouter un point, c'est qu'il y a une doctrine anglo-saxonne que j'aime bien, qui est celle de l'apparence d'impartialité de la justice. Qui est un des critères de jurisprudence de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Et en France, les magistrats se moquent éperdument de l'apparence d'impartialité qu'ils peuvent donner. Et c'est vrai que lorsqu'on a, sur les deux ou trois dernières années, une multiplication de justices où politiquement on peut, les magistrats, et je le dis de façon ronde, les magistrats peuvent donner le sentiment à un certain nombre de citoyens qu'ils sont instrumentalisés politiquement. Qu'on ne s'étonne pas ensuite que les Français remettent en cause ce que vous appelez la violence légitime. Parce qu'en réalité,
Eric, je vous aime beaucoup,
on voit bien
qu'il
y a
deux
poids, deux mesures.
On parle du magistrat du siège, on parle d'une présidente de cour d'assises.
Y compris le magistrat du siège. Bien entendu qu'il y a des magistrats du siège qui sont instrumentalisés politiquement.
Elle est présidente de cour d'assises, elle juge des crimes. Allez pas me dire qu'elle est instrumentalisée politiquement.
Mais bien sûr que si, mais il suffit de voir le mur des cons, l'affaire du mur des cons.
Mais ça n'a rien à voir.
Mais bien sûr que si, ce sont des magistrats qui affichent...
Vous parlez d'une présidente de cour d'assises, elle juge des crimes et des viols.
Les magistrats de la magistrature mis en cause dans le mur des cons sont des magistrats du siège.
Non, on aurait pu le dire pour l'affaire Balkany, du temps de Sarko Balkany. Il a rien risqué.
Ce sont
des magistrats
du siège qui ont affiché leur mépris pour un certain nombre de justiciables compte tenu de leurs opinions politiques.
Mais ça ne justifie en rien cette violence. Et vous ne pouvez pas faire une relation entre la politisation relative de certains corps de magistration avec la violence qui s'exerce sur eux.
Quand on ruine la crédibilité de son institution, on ne s'étonne pas ensuite d'être contesté. C'est une question de responsabilité individuelle des magistrats qui sont politisés.
Alors, on a plusieurs appels et on a Tintin qui nous dit « N'oubliez pas la colère dans le pays créée par la politique injuste du gouvernement. Vous aurez la réponse de cette violence. » Et on a Chantal en ligne avec nous. Bonjour Chantal.
Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Bonjour Valérie. Je me rallie à l'opinion de ce monsieur. Et je pense qu'effectivement la justice quand même commet beaucoup d'erreurs dans ses jugements, parce qu'il y a quand même des différences considérables dans le rendu des procès. Quand vous voyez qu'il y a des récidivistes qui ont donc 20 arrestations, etc., etc., et qu'on les relâche, et que l'exemple type actuellement, c'est moi j'ai entendu une émission où il y avait des détenus qui sortaient de prison et qui disaient actuellement la prison, ça ne nous fait pas peur, c'est le Club Med. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et la magistrature, je trouve, est effectivement politisée dans le sens où c'est un sérail de gens entre eux, avec un état d'esprit quand même très fermé. Et ils rendent des jugements qu'on ne comprend pas toujours, parce qu'ils sont totalement différents les uns des autres.
Mais vous excusez donc cette expédition punitive ?
Mais personne n'excuse.
Pas du tout. Je ne l'excuse pas du tout, au contraire.
Il s'agit d'une
expédition
punitive. Il s'agit d'expliquer.
Non, mais je trouve ça scandaleux. Mais si vous voulez, on arrive, nous sommes tellement laxistes. Et la justice ne suit pas la police. Quand vous voyez à quelle sauce sont mangées la police et la gendarmerie, alors qu'on ne les soutient pas, qu'on leur donne pas les moyens, parce que quoi qu'on en dise, ils ont des consignes, il faut pas faire de vagues. Et la justice ne rend pas, ne suit pas en fonction des délits. Quand vous voyez que, par exemple, l'exemple type là, c'est juste tout récent, le couple qui ont renversé les deux petits enfants. Bon. La jeune femme qui était dans la voiture, c'était pas elle qui était au volant, je pense pas qu'elle ait pu descendre en marche. On envisage de lui coller 6 ans de prison. Et on dit, si on rattrape le conducteur, il risque 10 ans. Est-ce que vous trouvez que c'est normal?
Entre 4 ans de différence,
c'est la
bien sûr, elle est complice, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne.
Oui. Le jeune homme d'ailleurs vient d'être interpellé dans un hôtel dans le Morbihan. Il vient d'être arrêté, le conducteur dont suspecté d'avoir fauché deux enfants à Lorient. C'est très compliqué parce que, enfin, un jugement, un procès, c'est quelque chose qui dure très longtemps. Et effectivement, avoir un jugement sur un jugement, c'est souvent.
Sur des cas comme ça, c'est en flagrance quasiment. Il y a un gosse de mort, un gosse gravement blessé.
Ce qui choque beaucoup les gens, à mon avis, ce qu'il faudrait changer, c'est que, quand il y a un vice de procédure mineur, on arrête tout et on lâche tout le monde. Pour les policiers déjà, pour les gens, c'est insupportable ça. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais
ils l'ont fait sur un fichier, sur plusieurs
fichiers.
Surtout,
en bon sens, il y a un gars, en gros, on est sûr qu'il a commis le délit à
la. Mais l'avocat. L'avocat, il est là pour trouver le grand spécialiste, c'est Dupond-Moretti, qui est le pro pour trouver la faille dans
c'est compliqué
pour casser le processus, même si c'est le pire des mecs.
Et la procédure pénale est compliquée, et les policiers se trompent souvent.
Allez, on va se retrouver dans un instant. On va se retrouver dans un instant pour parler du maintien de l'ordre à la française. Le ministre de l'Intérieur est en train de réfléchir à un nouveau schéma avec des experts. Je pense que ça vous plaît beaucoup, Bruno Pommard.
Oui.
À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff. Alors, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a animé un séminaire d'experts censé, je vous cite, revisiter le schéma national du maintien de l'ordre à la lumière des nouveaux, des derniers mouvements sociaux. Donc, je vous rappelle, 2448 blessés parmi les manifestants, 1797 parmi les forces de l'ordre, 265 enquêtes judiciaires. Visiblement, le ministre de l'Intérieur se dit qu'il y a peut-être un petit problème dans ce qui a été fait pour le maintien de l'ordre. C'est un petit peu le procès du LBD, des lanceurs de balles. Ils réfléchissent à utiliser parmi les premières pistes peut-être les lanceurs d'eau. Il y a un problème du maintien de l'ordre. Il y a eu un problème pendant les manifestations des Gilets jaunes. Alors certains disent à manifestation extraordinaire, réponse extraordinaire. C'est votre position?
C'est un peu ça. D'abord, ça a duré des mois et des mois et des mois, ce qu'on n'a jamais vu dans la 5e République, voire même avant, même en mai 68. Je ne sais pas si ça a duré aussi longtemps, mais je ne le pense pas. Bref, non, mais il a raison de se remettre en question sur le sujet du maintien de l'ordre. Comment l'appréhender autrement? Parce que les manifestations ont évolué, effectivement, et les Gilets jaunes, ça a été l'exemple même. Alors, le seul bémol que je mettrais là-dessus, c'est je m'interroge toujours sur les experts qui sont sollicités, là, les 15 experts. J'ose espérer que dans ces experts, il y ait des commandants de compagnie, des colonels d'escadron, c'est-à-dire des gens qui sont sur le terrain pendant 6 mois, qui en ont pris plein la gueule, excusez-moi le terme, qui peuvent peut-être amener des éléments plus probants que les grands experts qu'on retrouve tout autour des plateaux télé, qui sont spécialistes de la sécurité, etc., et Dieu sait si j'en côtoie quelques-uns, qui vont apporter des solutions du maintien de l'ordre. Voilà. Il faut que ça soit fait par des gens de terrain, et non pas par des scientifiques, parce que ça, c'est très à la mode avant. On va faire venir des grands des spécialistes. Experts. Monsieur Toubon, sûrement, va en faire partie, sûrement. Bref.
Je sens une pointe d'ironie.
Oui. Parce que ces gens-là sont à côté de la plaque, quoi, encore une fois. Ils sont dans les studios télé ou de radio, comme ça, à parler de comment on doit faire le maintien de l'ordre. Moi, là-dessus, je suis intransigeant. On a besoin de techniciens. C'est eux qui amèneront des réponses au ministre intérieur. Et j'ose espérer que ces 15 experts, au moins une partie, soient des gens vraiment de terrain et non pas des scientifiques.
On sait qui c'est ou pas? Vous avez des...
J'ai essayé de trouver ce matin.
J'ai pas trouvé non plus.
Mais il y a une nécessité, effectivement, de revoir le maintien de l'ordre dans cette société, parce qu'il a quand même très évolué. Et encore une fois, pour revenir à ces nombreux blessés qu'il y a eu, et à tout ce qui s'est passé. Encore une fois, arrêtons de jeter l'opprobre sur les policiers en disant que les policiers sont des fachos qui tirent volontairement sur le peuple, comme je l'ai entendu trop souvent. C'est faux.
Il y a eu des vidéos, il y a David Dufresne, journaliste de Libération, qui a montré un certain nombre de...
Il a fait un bouquin là-dessus, c'est à charge pour la police dans tout. Bon, même si un policier vous dit bonjour, il considère qu'il l'agresse. Mais on ne peut pas dire des choses comme ça. Moi, je pense que le maintien de l'ordre, comme il est fait à la française, a une base très intéressante, puisqu'il est quand même reconnu dans le monde entier, quoi qu'on dise. Bon, d'accord. Il y a eu des blessés, certes. Trop, c'est toujours trop. Il y a eu, je crois, 20 personnes qui ont perdu un œil et ses mains arrachées.
Je crois que c'est plusieurs centaines.
Mais encore une fois, si on remet ça, c'est officiel. Ça. Ouais. Si on le remet dans le contexte, encore une fois, et ça ne justifie pas les 20 qui ont perdu un œil et les gens qui ont perdu une main. Ça, je conçois que c'est terrible ce qui est arrivé. Mais en même temps, il ne faut pas dire que le policier visait systématiquement les gens pour les blesser. Parce que quand vous voyez qu'il y a eu 15 000 tirs de LBD, je veux dire, ce n'est pas 20 personnes qui auraient perdu les yeux, c'est des milliers pour moi. Moi, je vous lis mon point de vue de terrain. Après, ça va sûrement faire réagir, mais moi, je le vois comme ça.
Ouais.
Non, mais moi qui ai participé à des manifestations de façon d'ailleurs un peu lointaine, moi, je trouve que les forces de l'ordre qui sont faites pour le maintien de l'ordre en manifestation, c'est-à-dire les CRS et les gendarmes mobiles, moi, je les ai toujours trouvés très pro et très maîtrisés. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas reprocher à des CRS ou des gendarmes mobiles d'avoir dérapé dans les manifestations. Et on sait que globalement, les dérapages sont venus des forces de police qui étaient engagées sur le terrain et qui n'étaient pas préparées ou destinées au maintien de l'ordre dans les manifestations. Et donc, de ce point de vue-là, le sujet, à mon avis, il n'est pas dans une réflexion de doctrine. Il est dans quelle est la responsabilité du pouvoir politique qui a décidé d'engager les mauvaises forces sur le terrain. Et on voit bien que la question de Castaner, en réalité, elle est dilatoire. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire, il y a eu des problèmes techniques. Or, de mon point de vue, moi, pour avoir assisté à plusieurs charges, et de m'être trouvé au milieu de plusieurs charges de CRS ou de gendarmes mobiles, je trouve qu'ils ont toujours été extrêmement bons.
C'est les braves qui ont posé, à la limite,
ont été la moins pire des réponses, puisqu'on a permis de structurer une force et de lui donner une doctrine. Alors que jusque-là, elles étaient plutôt dispersées. Et donc moi, de ce point de vue, je pense que le sujet, c'est qu'en réalité, je vais faire encore une provocation, mais pas si provocatrice que ça. En réalité, dans la gestion de la crise des Gilets jaunes, on a eu la stratégie de Deng Xiaoping face à la place Tiananmen. C'est qu'on a dit, on n'a pas de réponse politique, la seule réponse, c'est une répression qui consiste, d'une façon ou d'une autre, à intimider physiquement, alors dans une proportion moindre en France qu'en Chine, mais à intimider physiquement les manifestants. Et je pense, et je l'ai déjà dit sur cette antenne il y a plusieurs semaines, je le redis aujourd'hui, que les mutilés des manifestations des Gilets jaunes, c'est une bombe à retardement dans le mandat d'Emmanuel Macron. Parce qu'aujourd'hui, il y a un consensus bourgeois pour dire c'est pas grave, après tout, bon voilà.
Ils n'étaient pas nombreux.
On a dit finalement, bon, ça fait partie des dommages inévitables. Moi, je pense que ce consensus sur c'est pas grave, ou en tout cas, on arrondit les angles, il va voler en éclats, et que dans les prochains mois, tôt ou tard, des gens chercheront la responsabilité pénale des élus qui ont couvert ces actes.
Oui, c'est sûr.
Moi, je partage l'avis d'Éric Vérec, à part la comparaison avec la place Tiananmen, où il y a quand même eu plus de 2500 morts, écrasés sous les chars et tirés à bout portant. On ne peut pas faire de comparaison totale avec... En revanche, effectivement, il y a eu une décision politique majeure de mater ce mouvement social et politique. Et ça, je pense qu'il est même assumé au plus haut niveau de l'État. Et qu'effectivement, une des questions qui va être posée, c'est est-ce qu'à un moment, ces dirigeants politiques n'auront pas droit à la Cour de justice de la République ? Parce qu'effectivement, va se poser cette question-là. Après, moi, que Castaner soit en charge et prenne en charge le schéma de réforme du maintien de l'ordre en France, c'est comme si vous demandiez à Balkany de s'occuper de la lutte contre la fraude fiscale. La vraie raison, et vous disiez que le mouvement social était inédit, c'est vrai, il est inédit, mais il y a une chose inédite, c'est qu'un ministre de l'Intérieur qui soit resté en fonction alors que tous les samedis, il faisait l'expérience de l'échec de sa politique de maintien de l'ordre. Et c'est pas les forces de maintien de l'ordre, les forces de l'ordre qui sont en cause là ici. C'est les schémas politiques qui ont été retenus. Donc, il y a un moment où ce ministre de l'Intérieur, qui s'est complètement décrédibilisé sur la gestion de cette crise, n'a pas inventé le maintien de l'ordre pour demain. Je pense politiquement, il aurait dû
c'est pas
démissionner.
Lui qui va c'est pas lui qui va l'inventer.
Oui, non, mais enfin, non, mais c'est politique le maintien de l'ordre. Hein. C'est pas une affaire de technicien. Et moi, j'espère que le défenseur des droits fera partie des experts.
Mais alors, et on a quelques noms des experts. Il y a le procureur de la République adjoint Olivier Christen, qui a récemment participé à plusieurs procès de gilets jaunes, dont celui d'Éric Drouet. Il y a deux anciens patrons du RAID, Jean-Michel Fauvergue et Jean-Louis Fiamenghi. L'ancien chef du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale, le général d'armée Jean-Régis Véchambre. Il y a un sociologue, Patrick Brunet. Toujours très utile, les sociologues, sur le maintien de l'ordre.
Oui,
le président de l'Institut Léonard de Vinci, Idriss Saïd Youssef.
Ah bah oui, c'est important, l'Institut
puis,
Léonard de Vinci.
Absolument. Et puis deux journalistes, c'est aussi très important dans la stratégie du maintien de l'ordre. Un journaliste européen et un journaliste de TF1. Donc,
que Mancini, Ange Mancini, qui est ancien préfet, ancien patron du RAID, ça a été mon patron au RAID. Et Firmenghi y soit. Et à la limite, je considère que non. Il devrait y avoir.
C'est quoi le rapport entre le RAID et le maintien de l'ordre?
Le directeur central des CRS devrait être là. Le directeur général de la gendarmerie nationale devrait être là. Voilà, c'est les journalistes, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ces
problèmes. Moi, je n'ai pas d'avis technique, mais c'est lié au sujet du débat précédent. C'est que la société est de plus en plus violente, et ce n'est pas globalement des manifestations à l'ancienne avec une banderole, Bastille, République,
ouais,
et puis avec un service d'ordre, surtout.
Et organisé.
C'était des mouvements sans service d'ordre, et avec, je crois que l'électrochoc, c'est facile de critiquer le gouvernement, ça a été la prise de l'Arc de Triomphe.
Ouais.
Où en gros, toutes les images ont fait le tour du monde, et le gouvernement s'est dit, on ne peut pas tolérer ça. Et donc, ils ont surréagi, je pense effectivement, en essayant de faire peur aux manifestants. Et en attrapant, malheureusement, pas les casseurs, j'ai l'impression. Parce que les casseurs, c'est plutôt des gars de 30 ans qui savent courir comme des lapins et qui sont
organisés. Les Black Blocs, c'est connu.
Mais à quoi ça sert, franchement?
Non, réfléchir à la stratégie, c'est pas idiot.
Compte tenu des blessés qu'il y a eu et tout, effectivement, ils ne peuvent pas faire autre chose.
C'est de l'affichage,
de faire
c'est encore de la com.
Ça peut être sympa. J'espère que ça va aboutir sur des choses intéressantes.
C'est de la com politique. Son interview dans le JDD centré sur cette annonce. Il fait la une du JDD sur cette annonce. C'est une manière pour lui de se repositionner.
Mais il ne faut pas rejeter tout. Il ne faut pas rejeter tout. Il y a des avances à faire dans le domaine du maintien de l'ordre, ça c'est sûr. Et c'est l'occasion pour lui, politiquement, sûrement, faire. Mais je pense que derrière, il y a des choses.
Mais quelle réflexion on peut avoir avec les gens qui sont avec des journalistes, un sociologue et,
Je ne sais pas ce qu'ils viennent foutre.
Je pose la question.
Ça va pas.
Et évoluer comment? Dans quel sens et pourquoi faire?
Ou dans cinq commissions, il sera inclus des commandants d'unités, etc. Des gens qui sont sur le terrain, concrètement. Même des gens de la préfecture de police. Il y a des gens très compétents de la préfecture de police sur le maintien de l'ordre, qui peuvent amener un vrai, véritable avis de fait d'avoir vécu sur le terrain concrètement.
Je remarque qu'il n'y a pas Alexandre Benalla qui est à ce jour quand même le principal expert en termes de maintien de l'ordre du gouvernement.
Par Marcel Campion,
non, mais je vois qu'il y a trois représentants des polices néerlandaises, espagnoles et allemandes.
C'est intéressant.
D'aller demander, d'aller voir comment ça se passe à l'étranger. Et effectivement, visiblement, il y a eu dans les pistes de réflexion cette idée d'utiliser les lanceurs d'eau, peut-être de supprimer les LBD, sauf que...
Mais les manifs en Allemagne, etc., n'ont pas été aussi... Nous, on a eu des manifs d'ampleur. C'est un truc de fou.
Il y a eu un G7 ou G8.
Mais pas des mois et des mois.
On n'a pas eu des manifs hebdomadaires dans les autres pays.
Ça a été un problème. Il y a eu ce fameux problème de coordination. Parce que si on dit que le gouvernement a voulu faire peur aux manifestants en mettant la pression, je veux savoir qu'il y a eu un système de dysfonctionnement à la préfecture de police qui a été reconnu de tout le monde. Effectivement, ce que je dis souvent, c'était un peu l'armée mexicaine. Delpech et puis tout, la DOPC, la DESPAP, etc. Ouais. Tout le monde commandait et personne ne commandait en fin de compte. Bon, à partir du moment où l'Allemand est arrivé et il a donné, et on l'a remarqué sur les dernières manifs, a donné des ordres précis au commandant d'unité pour intervenir à bon escient sur le terrain, ça s'est vachement mieux passé.
Il y aura un test en vraie grandeur, c'est fin août à Biarritz.
Avec un rendez-vous effectivement de tous les manifestants et de ceux qui.
Les hôteliers de Biarritz sont moyennement contents parce que.
Chacun son tour. Ils passent leur temps à pester contre les Parisiens qui sont d'horribles jojo.
Allez. Beaucoup de réactions sur Benalla. Vive Benalla, nous dit Sylvain. Voilà, avec des petites notes de musique, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est André Bercoff qui sera avec vous sur Sud Radio. Très bonne journée. À demain.